Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Par les temps qui courent, tous les soirs, une heure avec un ou une artiste. Ce soir, Marie Raymond.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Sur le plateau plongé dans l'obscurité, l'eau déferle brusquement. Cela rafraîchit l'espace du théâtre et l'illusion peut commencer. Nous ne sommes plus uniquement en bord de scène, mais aussi en bord de forêt, en bord de rivière, au bord des chutes et de nous-mêmes. Le camp Cataract est une nouvelle de l'écrivaine américaine Jane Bowles, le titre faisant référence à un drôle d'endroit de retraite, tissé d'illusions et de véritables aspirations à la solitude et à la liberté. Harriet y séjourne régulièrement, elle y fuit sa drôle de famille et tente de calmer une angoisse existante. Existentielle forte. Sans jamais ou presque quitter la moiteur des arbres et des émotions, vous mettez en scène Marie Raymond avec Thomas Kiardet, des femmes qui prennent l'existence très au sérieux, chacune à leur manière, quitte à en mourir. Mais si leurs ambivalentes aspirations nous bouleversent, il n'est jamais interdit de pouvoir en sourire. Bonsoir à vous, Marie Raymond.
Bonsoir Marie.
Bienvenue. Cataract Valais se joue en ce moment aux ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon à Paris et ce jusqu'au 15 juin 2019. Il y aura aussi une tournée début janvier 2020 à Bordeaux, à Reims et à Lorient. Je tentais de comme ça écrire une première image parce qu'elle est forte, cette eau qui déferle d'un seul coup sur scène et qui change l'atmosphère, y compris physique, de l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Est-ce que vous pouvez, Marie Raymond, décrire le reste de l'espace une fois qu'un peu plus de lumière se fait ?
Alors, c'est un espace composé d'une forêt avec des vrais et faux arbres et des vraies aiguilles de pin au sol. Là où va couler la cascade, on a une sorte de plan d'eau, comme une petite rivière. Et puis, de l'autre côté du plateau, on a, je sais jamais courir jardin, donc je ne l'emploie pas, mais voilà, de l'autre côté, on a cette petite cabane qui sert, qui est le refuge d'Harriet, et qui devient l'espace aussi un peu claustrophobique de l'appartement dans lequel sont restées les deux autres sœurs. Et le beau-frère. Voilà, c'est un espace qu'on n'avait pas envie de dévoiler immédiatement au regard des spectateurs, donc ça se dévoile progressivement, et ça se dévoile par des sensations olfactives, des sensations, comme la cascade coule dès le début, on a une sorte de vague de fraîcheur aussi qui nous arrive. Et puis voilà, de jouer du petit, du vaste, des voix qui résonnent dans des halls trop grands ou au contraire étouffés. Voilà.
Et c'est étonnant que vous précisiez, enfin, ce n'est pas sans justement rappeler le reste de la pièce, qu'il y a des vraies épines au sol, des faux arbres, hein, des vraies résonances, des fausses résonances. Évidemment, le titre même de Cataract Valais et l'illusion et le rapport à la vue et nous pose toujours tout de suite la question de qu'est-ce qui sera vrai et qu'est-ce qui sera faux. Ça a joué directement dans vos choix de mise en scène?
Oui. Oui, très fortement. Et c'est vrai que ce mot cataracte, parce qu'en plus, moi, au départ, je ne savais pas que cataracte, c'était la chute d'eau pour moi. Voilà, j'employais le mot cascade. Mais pour moi, cataracte, ça renvoyait à la vision. Et comme c'est une nouvelle qui est construite, effectivement, sur ce qu'on croit voir, sur les faux semblants, sur les illusions d'optique, sur ce qui est réel, ce qui ne l'est pas.
Jusqu'aux faux souvenirs et à des petites babioles factices.
Oui. Complètement. Et le lieu, on a voulu garder évidemment que le titre de la nouvelle et le titre du spectacle soient le lieu, donc Cataract, parce que c'est un lieu qui symbolise à la fois une nature, un désir d'authenticité, de de nature sauvage et en même temps quelque chose de complètement touristique, complètement kitsch, faux. Et le mélange des deux, on avait envie que ça apparaisse au plateau.
Justement, puisque vous parlez du titre qui garde cataracte, vous modifiez quand pour Valais, pourquoi ?
Oui, alors bon, ça c'est c'était plus un choix de communication, parce que quand on a commencé à parler du spectacle comme quand cataracte, pour certains lecteurs du dossier, ça amenait sur une fausse piste, un peu plus sombre, même des camps, etc. Enfin, ça évoquait moins l'Amérique et justement le côté la cabane dans la montagne, quoi. On était voilà.
Pratique. On va aller dans la cabane de Harriet. Elle reçoit une lettre. Ma chère sœur, tu es encore à Camp Cataracte où tu te promènes près des cascades avec grand plaisir, j'en suis sûre. Je suis toujours ravie que tu puisses te distraire. Il y a maintenant 5 semaines que tu es absente. Je pense que tu continues à passer de longs moments debout derrière les chutes, divertissement favori des touristes, m'écris-tu. Tu m'as expliqué, je crois, que seuls les gens qui ne restent pas la nuit doivent payer pour passer derrière les chutes. Toi, tu restes 10 semaines. Profites-en bien, ma chérie. Ici, rien n'a changé depuis ton départ. L'appartement est toujours le même. J'aurais pourtant quelque chose à te dire, mais d'abord ceci. Si tu commences à te sentir nerveuse, pourquoi ne rentrerais-tu pas? Ce n'est pas la peine d'attendre que tu sois devenue incapable de supporter le trajet en chemin de fer et cela pourrait t'arriver. Je me demande bien sûr ce que tu penses de notre appartement quand tu es là-bas, près de la cataracte. Mais je voudrais aussi te rappeler certaines choses. Savoir que tu as un appartement et une famille aimante doit te donner de Camp Cataracte une idée fort différente de ce qu'elle serait si tu n'avais pas d'autre foyer ou goûté toute l'affection d'une vraie famille. Sans doute y a-t-il là-bas de pauvres malheureux dans ce cas-là. Si tu en rencontres, il faut les aimer et les combler, car ce sont les âmes perdues de ce monde. J'avoue que, pour ma part, j'ai peur des nomades. Je les crains. Et je crains aussi pour eux. Je frémis à la pensée qu'un être cher à mon cœur se laisse prendre au piège d'une vie de voyage. Notre destin est de chérir ceux que la volonté divine a remis entre nos mains et en premier les membres de notre famille. C'est pourquoi il vaut mieux vivre le plus près possible les uns des autres. Tu vas peut-être dire, Sadie est vieux jeu, elle ne veut pas que les gens vivent chacun chez soi. Je ne suis pas vieux jeu. Mais je ne voudrais pas que l'un des nôtres se mette à vivre comme un nomade. Pour enrichir sa vie spirituelle, il ne faut pas élargir le cercle qui vous entoure, mais approfondir ce qui est déjà proche. Quand tu t'en vas, je me fais du souci et j'ai peur pour toi. J'ai l'idée que tu pourrais te lancer dans une vie de voyage et il me semble que tu ne te rappelles plus très souvent l'appartement. C'est un extrait, non pas de la pièce, mais du recueil « Plaisir paisible » de Jane Bowles, traduit par Claude Thomas et paru aux éditions Bourgois, dans lequel on peut trouver cette nouvelle « Camp Cataracte ». Et c'est cette première lettre qui ouvre la pièce et qui nous donne 2 grandes informations. La présence de cette famille, de cet appartement, la manière dont, en tout cas, la sœur Sadie voit les escapades d'Harriet. On l'entend dans la voix de la comédienne qui ensuite interprétera la sœur Sadie devant nous, Marie Raymond. Comment est-ce que vous décrivez et comment est-ce que vous découvrez, pardon, l'existence de cette nouvelle de Jane Bowles?
Alors, c'est il y a quelques années, 4 ou 5 ans, c'est un ami qui m'avait parlé de Jane Bowles. Et on était dans une librairie à ce moment-là, et du coup, j'ai trouvé les 2 seuls recueils qu'on a finalement, puisqu'elle a écrit un roman et ses 2 recueils de nouvelles. Et je les ai dévorés, et c'est vrai que j'ai été frappée tout de suite par la singularité de l'écriture, et puis parce que tout d'un coup, je trouve que ça, on se sent en connexion immédiate avec l'auteur, parce que c'est tellement des sensations personnelle et qui du coup elle a fait un tel travail d'écriture pour essayer d'être au plus près de ses sensations à elle que j'avais pas l'habitude de d'entrer à ce point dans des voilà des psychologies féminines au théâtre en tout cas enfin dans les nouvelles et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'adapter au théâtre.
C'est un travail qui s'est fait facilement, justement, puisque c'est une, on vient de l'entendre, évidemment, là, bon, il y a une lettre, à la limite, c'est peut-être quelque chose qui est le, peut-être plus facilement transposable sur le plateau, mais il y a assez peu
et
de dialogue.
Oui, ouais. Encore, bien sûr. Parce que ça peut plomber aussi.
Bien sûr.
C'est délicat, c'est vrai, parce que souvent, dans une nouvelle, la narration, nous informe énormément sur ce que ressentent les personnages et qu'est-ce qu'on fait de cette narration-là au théâtre. Donc ça a été une question difficile. Et puis, ce qui m'attirait aussi dans la nouvelle, pour moi, c'était que je ressentais très fortement le côté climatique, justement. Je trouve que c'est sa nouvelle, pour moi, la plus construite et la plus forte de cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il mêle autant le fond et la forme, les sensations que traverse le chaos, que traversent les personnages, et l'endroit, le lieu. Et donc ça, moi, j'avais pas l'habitude du tout de travailler à cet endroit. Là, au théâtre, c'est ça qui m'attirait aussi, c'est que tout d'un coup, je me suis dit, bah voilà, là, il va y avoir un vrai travail sur l'espace, sur le son, sur ce qu'on a envie de faire ressentir aux spectateurs, et puis l'idée d'incarner ces personnages, voilà, ça, c'était un vrai plaisir d'actrice aussi.
J'ai pas précisé que vous jouez Harriet.
Ah oui, voilà. Oui, je joue aussi dans le spectacle, et c'est vrai que les personnages féminins, que ce soit Evie, Sadie, Harriet, et Beryl aussi, je trouve qu'on ont une dimension faite de complexité, d'ambiguïté, de contraste, je voulais dire le mot, à l'intérieur, et que c'est... On n'a pas si souvent que ça l'occasion d'exprimer ces choses-là au théâtre. Et c'est ce qui m'a frappée dans les nouvelles, dans l'écriture de Jane Bowles, qu'on retrouve dans d'autres de ses nouvelles. Il y a une autre nouvelle qui s'appelle Laura et Sally, qui se passe aussi à Caen Cataract. Mais voilà, je trouvais que celle-là condensait toutes ces sensations. Et ça a mis beaucoup la forme que ça prend maintenant, que prend le spectacle. Donc c'est jamais définitif de toute façon un spectacle. Donc on continue de chercher. Vous parliez de la cascade du début de l'image. Cette image-là, cette décision a été prise deux jours avant la première de mettre la cascade au début. Il y avait toute cette idée de qu'est-ce qu'on préserve comme mystère ou pas chez le spectateur, qu'est-ce qui est trop dévoilé. C'est tellement énigmatique comme nouvelle, il y a tellement rapport à l'opacité que du coup c'est compliqué de savoir ce qu'on va donner ou pas comme clé au spectateur. Donc comment rentrer dans cette narration et comment ce qui fait la particularité de la nouvelle, c'est que il y a une forme de regard d'abord objectif qui tout d'un coup devient comme le regard subjectif d'un des personnages. Et en fait, ce basculement, on s'en rend pas compte immédiatement à la lecture. On a besoin de revenir en arrière. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé en lisant la nouvelle. J'ai eu tout d'un coup, en comprenant que... Enfin, je sais pas tout ce qu'on peut dévoiler, mais oui, enfin, toute une partie est se passait dans la tête d'un des personnages. J'ai eu besoin d'y revenir. Et donc, comment au théâtre donner au spectateur ce parcours-là aussi, c'est-à-dire de basculer petit à petit dans un point de vue subjectif, dans la tête de quelqu'un. Ça a été un gros travail sur les voix off. Et pareil, sur cette histoire de narration aussi, on a envie, comme ça, au début, de se dire, bah, il faut mettre toute la narration, donc toutes les voix off. Puis en fait, on se rend compte que au théâtre, c'est pas pareil, ça casse aussi de l'imaginaire, qu'il fallait accepter d'avoir, de garder des énigmes, et puis de prendre, par contre, de prendre en charge des choses par le jeu. Peut-être plus, dans la manière d'incarner ces femmes-là et ces personnages, parce qu'il y a aussi l'Indien. et ça, c'était... ça a pris beaucoup de temps, parce que finalement, la nouvelle est courte, mais trouver comment la faire ressentir et permettre aux spectateurs... d'entrer dans cette écriture, ça a été long.
Est-ce que vous vous souvenez en quels termes votre amie vous parlait de Jane Bowles? Qui vous a mis la puce à l'oreille?
Je crois que c'est le mot de singularité de la femme elle-même, de son histoire et de l'écriture. Et puis il m'a parlé des personnages aussi féminins, parce que c'est vrai que c'est... moi j'aime bien souvent les personnages qui sont un peu au bord de l'abîme, enfin, et qui ont affaire chaque fois avec des... je trouve plus le mot, mais des antagonistes, des tiraillements intérieurs, disons, et qui, plutôt que de les résoudre, font avec. Et dans le cas de... Donc je crois que voilà, qu'il a dû me parler des personnages féminins, et en... Effectivement, en lisant ces nouvelles, j'ai eu cette sensation très forte de des personnages qui sont tout le temps aux prises avec ce qu'elles ressentent à l'intérieur et puis ce qu'elles communiquent à l'extérieur, et l'écart énorme entre ces la partie immergée de l'iceberg et puis ce qu'on voit d'elles, enfin ce qu'elles arrivent à exprimer.
Est-ce que vous sauriez nous la présenter en quelques mots, cette autrice?
Ouais. Alors,
ce que vous en savez.
Ouais. Alors, de ce que j'ai lu, d'abord, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a pas du tout été reconnu de son vivant. C'était Tennessee Williams, Truman Capote, ouais, Harold Pinter aussi, qui reconnaissait son talent, mais et qui était très laborieuse dans l'écriture, c'est-à-dire qu'elle elle passait plus de temps à corriger ce qu'elle avait écrit, qu'à continuer d'écrire. Et du coup, pour elle, c'était extrêmement sacré, l'acte d'écrire. Mais ça n'allait pas du tout de soi. Elle avait l'impression qu'il fallait qu'elle réinvente une nouvelle langue. Et dans la vie, apparemment, enfin de ce que j'en ai lu, c'était quelqu'un d'extrêmement contrasté, c'est-à-dire très drôle, très fantasque, d'apparence très libre, et en même temps torturé par d'infinies angoisses sur aussi bien sur le monde que sur choisir entre tel et tel plat. Enfin, son angoisse se logeait dans des détails, et ça, je trouve que c'est ce qu'on ressent aussi chez ces personnages. Et donc voilà, elle était elle-même voilà tiraillée entre ce désir de liberté, de trouver sa place, son espace, et finalement l'impossibilité de le faire. Et toute sa vie, je pense qu'elle a été dans cette instabilité-là.
C'est quelqu'un qui a été interné.
Oui.
Et qui a connu un destin littéraire finalement assez mitigé. Vous le disiez tout à l'heure, une reconnaissance plutôt mince, quoi.
Ah oui. Parce que même la seule pièce de théâtre qu'elle a écrite, donc Sa maison d'été, ça n'a pas marché. Et c'était mais parce que je pense que la singularité réunit rarement du monde, et que autour d'elle, en plus, bon, elle vivait donc avec Paul Bowles. Il n'y avait pas un rapport de, comment on peut dire, elle n'était pas du tout en concurrence avec Paul Bowles, mais pour le coup, lui était l'écrivain reconnu. Voilà, qui avait écrit Un thé au Sahara, etc. Et
elle était la femme de...
Ouais, et en plus, plutôt que de nourrir, je sais pas, une sorte d'aigreur et tout ça, c'était plutôt qu'elle se remettait perpétuellement en question, en disant mais peut-être que je suis pas faite pour ça, je vais peut-être pas y arriver, tout ça. Et en même temps, elle voulait rien faire d'autre. Mais c'est quelqu'un qui avait extrêmement peu confiance en elle. Et en même temps, avec un humour ravageur. Et je trouve que le cocktail des deux se sent dans son livre. Ouais.
Alors, Jane Bowles a une écriture bien particulière. Déjà, le traduire l'américain, c'est pas toujours facile. Mais je crois que l'écriture de Jane Bowles a une caractéristique. C'est peut-être sa simplicité.
Oui, c'est ce qu'il y a de plus passionnant, de plus épouvantable aussi. C'est assez simple, mais c'est plus que simple. D'une certaine façon, c'est élémentaire. C'est quasi primaire, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle n'a rien de sophistiqué, ni dans sa syntaxe, ni dans son lexique. Elle travaille sur des blocs, les gros mouvements du dedans. Là où c'est pas du tout élaboré, c'est pas réfléchi, c'est pas arrangé, c'est pas polissé du tout. Et alors ça donne une langue qui est une sorte de langue d'enfance, mais néanmoins dite par des adultes. Donc on n'a pas les hésitations ou les approximations des enfants. Alors, c'est très étrange parce que, initialement, on peut avoir envie d'arranger, de rendre un peu plus joli, plus séduisant, un peu plus grande personne. Et c'est pas bien du tout, parce qu'à ce moment-là, tout s'effondre. C'est-à-dire, la force du texte, c'est de travailler que sur quelques mots, mais vraiment plus que simples, et de les répéter, sans arrêt, de les repasser d'un personnage à l'autre, tout le temps, de façon très très obsessionnelle.
C'est la voix d'Elvine Pieyer, alors elle est traductrice du texte Sa maison d'été, elle est interviewée par Yvonne Taquet en 1995 dans l'émission Mardi du théâtre sur France Culture. Cependant, même si elle s'exprime à propos d'un texte qui n'est pas celui que vous décidez de mettre en scène, Marie Raymond, ce qu'elle dit des gros blocs à l'intérieur des personnages, d'une langue comme ça qui est une langue primaire, élémentaire, une langue d'enfance, ça me semble être intéressant de pouvoir en discuter à propos de la langue qui est utilisée dans Camp Cataracte et de la manière dont vous l'avez lu avec Thomas Kierdet, parce que la présence de l'enfance dans les personnages, dans leur corps, dans la manière dont ils interprètent, n'est pas négligeable du tout.
Oui. Ce que j'allais dire, de ce que je retiens de ce qu'elle disait, c'était ça, cette part d'enfance. Plus que la simplicité d'écriture, je parlerai de la connexion avec l'enfance. Jane Bowles parle d'absorption dans son écriture. C'est-à-dire qu'elle a envie d'absorber toutes les sensations que le personnage éprouve, et c'est ça qu'elle va le mieux décrire. Et donc il y a une elle-même petite se racontait, était très, voilà, on lui disait c'était une enfant très fantasque qui se racontait beaucoup d'histoires, et était jugée par les adultes pour ça, donc elle en concevait une honte et en même temps un plaisir. Et ce qu'on reconnaît dans Camp Cataracte, dans les trois, c'est des femmes qui ont envie de s'inventer leur propre manière de leur propre vie, leur rapport au monde, et qui sont en lutte avec ça, mais qui ont un, et donc dans la direction de jeu d'acteur, pour moi c'est très important. Je me souviens, j'ai Caroline Arroise qui joue le rôle de Sadie, Sadie qui pour moi est un peu
la sœur d'Ariette, hein.
Voilà, dans le spectacle, et qui pour moi, un rapport très très fort au cachet, à ce qu'elle ne pourra pas exprimer, ce qu'elle s'exprime à elle-même, mais dont elle n'a même pas conscience. Et donc, elle peut jouer à imaginer comment devrait être le monde, comment devrait être son rapport avec sa sœur, comment devrait se passer cette rencontre. Elle le fantasque, elle joue toute seule avec ça. Et je trouve très beau, il y a une nouvelle de Jane Bowles aussi dans le même recueil où c'est comme ça une enfant qui joue avec des petits soldats et on plonge dans cette l'histoire qu'elle se crée, et d'un coup elle est interrompue par son père, et en fait ça brise, elle est interrompue avant qu'elle ait eu le temps de faire un rituel qu'elle fait tous les jours avec ses petits soldats, et ça brise complètement son monde. Et ce qui peut sembler superficiel, tout ça, en fait ça a des conséquences immenses pour elle, et c'est ça, les personnages de Jane Bowles, c'est ce rapport à l'imaginaire, à l'enfance, qui a des conséquences. C'est, par exemple, un auteur comme Salinger a cette chose-là aussi, je trouve, à un autre endroit, mais en tout cas, se permettre ça. Et du coup, ça donne une liberté dans l'écriture, qui est, et donc une liberté aussi pour nous en jeu, qui est extrêmement précieuse.
Et d'ailleurs, cette Ariette qui décide donc d'une retraite à Camp Cataracte effectue des exercices chaque matin, et à défaut de faire de la gymnastique, elle fait des exercices d'imaginaire. Et ouais, je trouve ça assez beau, ça prend la forme d'un yoga des bras, quoi, on va dire, sur son tapis. Mais c'est dire aussi que cette femme, elle cherche des possibilités de s'inventer. De s'inventer parce que la place qu'elle occupe dans l'existence lui est passablement insupportable ou inconfortable, à minima. Et qu'une possibilité de s'inventer, c'est l'imaginaire. C'est se penser autrement. Et c'est rendu presque du côté de l'enfance, quoi. Presque du côté de quelqu'un qui joue avec des petits bouts de Lego et qui se dit des histoires.
Ouais, tout à fait. Parce que, en fait, ce qui est très important dans cette nouvelle, et ce qu'on comprend dans la lettre que vous avez lu, c'est que Ariette fait des séjours, mais ce sont des séjours, et qu'ensuite elle retourne dans cet appartement. Et que donc, ces 10 semaines qu'elle passe à Grand Cataracte, c'est là où elle peut tout s'inventer, que c'est là sa vraie vie. Et c'est un endroit qu'on imagine très protégé, mais aussi très, donc, très touristique, dans lequel il peut visiblement rien lui arriver. Mais elle a envie de se raconter qu'elle peut être une peau rouge qui descend des rapides en canoë. Et quand elle parle d'exercice d'imagination, moi aussi, je trouve ça très beau, parce que justement, ce ne sont pas des... Comme aujourd'hui, on ferait des exercices de relaxation, de pleine conscience, etc. Là, pas du tout. Pour moi, c'est beaucoup plus vivant. C'est-à-dire, on peut tout imaginer. Alors là, ça prend la forme. Mais comme je vous dis, ça évolue, les représentations. Donc, je ne sais pas encore si ce sera cette forme-là à la fin des représentations. Là, c'est des petits papiers comme ça, dans lesquels il y a écrit des noms de fleurs qu'elle essaye de faire. Ça pourrait être n'importe quoi, mais elle s'invente une vie. Comme ça dit aussi, il y a besoin de... La différence peut-être, c'est que on en reparlera peut-être plus profondément, mais Sadi n'a pas conscience de ce qui la traverse, alors que Harriet s'active pour se faire croire aussi que qu'elle se trouve une place, quoi, sa place dans le monde. Et probablement, on parle de ses crises nerveuses, on dit que c'est le médecin qui a indiqué à la famille que ce serait bon pour elle de faire ces séjours-là. Et elle retourne l'histoire en disant « Mais le médecin rentre dans mon jeu malgré lui. D'accord, je vais aller à Grand Cataracte, mais je vais y retourner de plus en plus longtemps. Je vais faire de là des escapades vers le monde extérieur, mais dans le plus grand secret. » Enfin, voilà, elle se raconte tout un monde. Et ça, c'est les cabanes qu'on construit enfant dans sa chambre, enfin dans un endroit complètement protégé, mais on a besoin de se raconter qu'en mettant un bout de tissu au-dessus de son lit, ça y est, on est au milieu du désert et qu'on a une vie incroyable, et ça c'est génial.
On y reviendra parce que c'est un besoin qui touche aussi à un besoin primordial de fiction, de solitude et d'invention de soi existentielle. Mais avant ça, peut-être la troisième des sœurs, qui n'est pas la troisième sœur de Tchekhov, mais donc la troisième sœur de Jane Bowles, qui est Evie, qu'on voit très brièvement apparaître dans une scène plus domestique. C'était un moment où votre mise en scène, Marie Raymond, nous rapatrie dans l'appartement familial, et d'un seul coup, tout ce qui pouvait paraître grand, humide, boisé, est étriqué à la petite lumière des lustres qui tombent bas sur la table du dîner. Et on assiste à un dîner sans Harriet, qui est donc à Grand Cataracte, avec Sadi, sa sœur Evie et son mari. Comment présenter cette sœur-là dont l'apparition est une comète qui dénote vraiment du reste des deux autres sœurs?
Oui, elle a une seule scène, Evie. Et en plus, elle est présentée chaque fois comme la troisième sœur la plus normale, entre guillemets, parce que elle a un statut social, elle est mariée, elle travaille, c'est la seule des trois.
Et elle est dingote au plateau.
Et en fait, oui, c'est ça qui est très beau, c'est que le rapport à la folie, à la normalité est complètement flouté chez Jane Bowles, parce que finalement, les trois femmes ont la sensation qu'elles n'ont pas trouver leur place au monde. Et Evie passe son temps à dire « Mais si les choses étaient différentes, si mes sœurs étaient normales, je pourrais être gay comme dans n'importe quelle autre famille. Je pourrais ceci, cela. Je pourrais être légère. Et j'en suis empêchée parce que mes sœurs sont dingos, comme elle dit, et que du coup, ça la freine, elle, dans son épanouissement. Or, on comprend assez vite que au-delà de ça, c'est elle-même, et qui a besoin de se rassurer en permanence en disant « Mais quand je vais au cinéma, je vois bien que je suis comme tout le monde. » Et que du coup, l'idée du métier, du mari, c'est sans doute aussi des appuis, des béquilles pour se rassurer de quelque chose qu'elle pressent comme ses autres sœurs. Parce qu'il y a aussi une histoire un peu familiale qui plane de la grand-mère. Elle parle souvent de leur grand-mère. « Ne suis-je pas aussi la petite fille de grand-mère comme tout comme toi? Pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas le droit d'être folle ?» Enfin. Voilà, et donc c'est difficile en une scène de faire ressentir ça, et je trouve que la comédienne Caroline Darchène y arrive magnifiquement bien, parce qu'elle elle donne à voir les failles aussi des vies, et puis la contradiction entre ce qu'elle dit et ce qu'on voit, et qu'elle ne maîtrise rien alors qu'elle voudrait tout maîtriser. Voilà, on s'est permis une petite liberté aussi dans l'adaptation quand elle dit « j'aime le sourire de mon mari, j'aime ça, j'aime les pêches melba, j'aime etc. » C'est c'est un moment aussi où on voit tout ce à quoi elle se raccroche, qu'elle aimerait que soit son existence. Et c'est ce qui la lie à ses deux sœurs aussi, c'est qu'elle est extrêmement soucieuse du regard des autres. Ça, c'est un trait commun entre Sadie, Evie et Harriet, c'est la peur du regard des autres. Ce qui semble tout le temps fou quand on pense à la vie de Jane Bowles, c'est en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est cet antagonisme-là entre une grande indépendance, une originalité et voilà.
Et quelque chose qui les enferme toutes les trois. Je disais que si... vraiment leur ambivalence, leur souffrance parfois sont bouleversantes, à aucun moment vous nous empêchez d'en rire. Aucun moment vous nous empêchez, pas de nous moquer forcément, mais de les trouver drôlatiques d'une certaine manière. Est-ce que pour vous c'était un point important, Marie-Raymond, de ne pas faire de ces trois sœurs des sœurs trop sombres?
Mais oui, parce que ça va avec... Je pense que les deux se sont pas séparés entre l'humour et justement ces gouffres qu'elles éprouvent. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri quand j'ai découvert les deux recueils de nouvelles de Jane Bowles. Et il y a l'humour qu'elle avait sur elle-même, probablement. Quand on dit qu'elle a été incapable de choisir entre deux choses, qu'elle avait tout d'un coup la phobie des tunnels, des ascenseurs, etc. Et en même temps, l'envie d'une vie d'aventurière et tout ça.
Vous racontez une anecdote de son mari qui, pour la présenter brièvement, raconte quoi, une manière qu'elle avait de se présenter?
Ah oui, alors ça, je sais plus très bien, c'est qu'elle... Non, mais elle en jouait, elle jouait aussi à... Du coup, elle mettait les autres un peu mal à l'aise
ouais.
En s'inventant elle-même un autre personnage que ce qu'elle était. Et c'est pour ça aussi la grande connivence qu'elle avait avec Tennessee Williams, c'était ce niveau de jouer socialement de son personnage et le rapport à la société. Justement, c'est le fait que ces personnages semblent inaptes au monde. Elle en rit et heureusement et ça part souvent de tout petits détails. C'est ça que j'aime, quoi, c'est dans ses nouvelles, c'est que c'est pas un rire, c'est ni une pièce comique, ni une pièce tragique, enfin, on peut pas la définir, en fait.
Non, mais elle a une tendresse pour ses femmes.
Mais voilà, oui, tout à fait.
Donc, c'est un petit mot de Paul Bowles qui dit « Je suis pas certain qu'on ait suffisamment pris conscience que Jane était avant tout une humoriste. Pour que la vie soit supportable, il faut la rendre absurde. Ses personnages se trouvent dans des situations qui doivent être comprises comme fondamentalement absurdes. Ils sont sérieux, pathétiques et risibles. Jane adorait inventer ce qu'elle appelait des personnages et souvent, elle les interprétait dans la vie. Je me souviens qu'un soir, un couple d'anglais plutôt pompeux nous rendit visite. Jane, assise les jambes repliées devant la cheminée, attaquer une côtelette de mouton. Comme je la présentais à l'homme, elle se barbouillait encore plus de gras et avec un sourire, lui tendit une main graisseuse en lui disant, comme pour le rassurer, « J'ai aussi mon côté spirituel. » Let's just do one verse, man.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Marie Raymond. Once upon a time, you dressed so fine, through the bums of dime in your prime, didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be on your own without no direction home, like a complete unknown, like a rolling
Si l'on veut, je pourrais préciser en expliquant que Camp Cataract est pour moi une sorte de cabane dans les arbres. Chacun se rappelle avoir eu un refuge de ce genre dans sa jeunesse. Les enfants y grimpent et lorsqu'ils y sont cachés, bien à l'abri parmi les feuilles, ils forment le projet de s'enfuir de chez eux. Les enfants aiment beaucoup ces cabanes. Et si je vous disais tout de go que je suis une femme fort originale, mais aussi assez superficielle, oui, en un certain sens très frivole, je crains le scandale. Je déteste tout ce qui ressemble à une attitude bohème de fuite ou d'évasion. Je sais que cela n'a rien à voir avec les choses les plus graves de la vie. Je suis certaine qu'il existe des centaines de personnes sérieuses qui lâchent la piste tracée pour sauter dans le ruisseau, mais je suis trop frivole pour ce genre de décision, je le sais, et je suis heureuse de le savoir. Sadie, en revanche, qui passe ses journées à récurer et à faire la cuisine, prend cette vie avec autant de sérieux que s'il s'agissait d'une religion. Moi, l'appartement, les offers. Par les offers, j'entends ma sœur Evie et Berthe, son gros cochon de mari. Je suis la seule à avoir du goût dans cette famille, mais je ne me suis jamais mêlée de proposer fût-ce une lampe pour l'appartement. Je ne voudrais pas m'abaisser en faisant un geste qui puisse m'engager. En revanche, je refuse de me ruer de façon indécente vers la liberté. Je ne veux pas qu'on dise de moi l'extravagante sœur de Sadie. Il me répugne profondément de voir des femmes non mariées se lancer dans la vie toutes seules. Attitude très frivole, j'en conviens. On est en droit de se demander comment il est possible qu'une femme soit frivole et en soit consciente. Mais c'est précisément à cela que l'on reconnaît la tragédie des personnes qui se laissent brimer. Marie Raymond, après un petit clin d'œil à votre précédente mise en scène et Bob Dylan, je lis un extrait du texte traduit par Claude Thomas de Jane Bowles, Camp Cataract. C'est une sorte de monologue d'Ariette qui dit, intérieurement ou pas, ce qu'elle fait là, ce qu'elle vient y chercher, et qui d'un seul coup connecte avec 1000 références littéraires possibles, de Walden à Virginia Woolf et sa chambre à soi. Est-ce que vous avez eu le désir de monter ce texte aussi parce que ça c'était au carrefour justement d'une pensée littéraire et politique de la place de la femme, puisque là il est vraiment question du mariage, de la liberté, de l'espace qu'on s'octroie, du regard des autres?
Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que cette question de la place... Pour moi, je tourne autour aussi dans mes spectacles depuis un petit moment sur cette question de la place de l'individu dans le monde.
Et comment, pour ceux qui ne connaissent pas très bien votre travail?
Parce que le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était donc le mot contradiction. Souvent, la contradiction entre ce qu'on... n'imagine ce qu'on comme on voudrait que le la place qu'on voudrait avoir le rapport aux autres qu'on aimerait avoir et puis qui n'est pas celui-là les contradictions entre comment les décisions qu'on aimerait prendre et qu'on ne prend pas et donc des autour de la question chaque fois de comment on se définit qui on est mais sans la résoudre jamais donc c'est un peu ce qui circulait dans le spectacle d'André, mais
sur
aussi
Agassi.
Vanda évidemment sur sa place, sur qui on est, le scénario sur Mastorna qui circule à la fois chez le personnage de Mastorna et puis chez Fellini au moment où il ne réalise pas ce film. Et puis là, chez Jane Bowles, ce que je trouve très très important, c'est que ça touche justement à cette tout ce poids social qui pèse sur les femmes, et elle aussi a dû s'en affranchir. Enfin, elle s'est mariée comme ça avec Paul Bowles, mais surtout pouvoir avoir la paix. C'était une sorte d'accord tacite entre les deux. Chacun était libre de vivre sa vie. Mais elle, ça lui permettait de s'émanciper sans créer de scandale.
D'ailleurs, ça revient tellement dans ce passage que je viens de lire.
De scandale. Alors, le passage que vous avez lu, on a beaucoup de mal à à le retraduire un petit peu, parce que le terme frivole en anglais indiquait autre chose que nous, l'idée qu'on a de la frivolité, etc.
Donc, et vous avez choisi quoi comme mot?
Ben, en fait, plus simplement, c'était cet antagonisme entre la volonté d'indépendance et la dépendance au regard des autres. Et quand elle dit, il y a des tas de personnes tout à fait sérieuses comme ça qui sont capables de lâcher la piste toute tracée et de se jeter dans le ruisseau. Mais moi, je suis trop soucieuse du regard des autres. J'ai pas du tout envie qu'on puisse dire de moi l'extravagante sœur de Sadie. Et voilà. Et donc cette contradiction entre ne vouloir être ce qu'on est intimement, donc avec son originalité, et en même temps ne pas avoir envie d'être mis dans une autre case et ne pas avoir envie d'en faire un bastion, mais vivre tout ça dans le secret. Ça, c'est étonnant, parce que c'est pas non plus, c'est pas une porte-drapeau non plus, Jane Bowles, tout comme, c'est un peu la même contradiction qu'on avait avec Barbara Loden, avec ce personnage, comme ça, de Vanda, qui exprimait sa liberté d'une manière pas revendicatrice, mais que ça se situait à un autre endroit.
C'est un précédent texte que vous avez mis en scène.
Voilà, oui, et pardon. Et là, dans Quand Cataracte, le personnage d'Ariette veut s'émanciper, mais chaque fois, c'est dans le secret. D'abord parce qu'elle n'a pas envie qu'on lui mette une autre étiquette, mais aussi elle sent qu'elle ne serait pas prête à encaisser le regard de la société sur ses choix. Question qui circule sur les trois femmes, enfin, et donc sur les femmes de cette époque, mais évidemment d'aujourd'hui aussi, et le rapport que Jane Bowles a à ces questions-là, mais donc aussi à l'écriture. Pour moi, c'est un, évidemment que c'est un rapport féministe assez et essentiel à ces questions-là. Je pense que c'est pour ça que ça m'a parlé aussi, cette histoire de cabane dans les arbres, de il y a le rapport à l'enfance, mais il y a presque aussi le rapport à comment on peut s'émanciper de ce regard-là, de ce poids-là des autres. Est-ce qu'on y arrive ou pas? Cette histoire du mariage, alors elle le dit, je suis peut-être un peu bizarre, un peu différent, mais alors moi, c'est pas du tout quelque chose qui me... Voilà, qui
passer ma vie avec un homme, vraiment, je vois pas le truc, quoi.
Oui, elle dit, ce système qui consiste à traverser l'existence en compagnie d'un partenaire me répugne à tout point de vue. Donc, voilà, une fois qu'elle a dit ça, elle dit, mais c'est pas pour autant que... Enfin, elle est tout le temps en contradiction, quoi. Et en même temps, elle a pas... C'est comme si elle se disait qu'elle aurait pas les épaules pour en faire un manifeste, quoi.
Et vous diriez que c'est pareil pour son rapport à la forêt, à la nature, c'est-à-dire qu'elle voudrait pouvoir s'extraire d'un espace domestique urbain où on peut tranquillement entendre passer les trains. Mais en même temps, ça se fait dans un parc bien gardé, et elle serait pas même d'aller dans la jungle, quoi.
Oui. La rencontre, par exemple, entre Jane Bowles et Paul Bowles, ils ont décidé, lui avait prévu de partir au Mexique avec toute une bande de copains, mais vraiment à l'aventure. Et elle le rencontre et elle décide de partir avec lui, et ça scelle un peu leur futur mariage, et comme ça elle s'émancipe, et elle a l'accord de sa mère pour ce voyage. Seulement, une fois qu'elle a fait le parcours un peu éprouvant, jusqu'au Mexique, à peine arrivée, elle décide finalement, elle toute seule, de se prendre une chambre au Ritz, alors que les autres vont dans une pension. Voilà. Et donc, c'est complètement illogique, parce qu'elle est en rêve d'aventure, et puis tout d'un coup, elle a besoin d'être dans un cadre très protégé, parce que sinon, elle sent qu'elle va pas y arriver. Et comme Ariette, qui, pour préparer son excursion en canoë, a besoin de... 2 heures pour être sûre de baliser,
faire
de
sa valise.
À Z, faire sa valise. On imagine qu'elle n'emmène pas que un sac de couchage, mais sa couette et sa chambre, finalement, dans son canoë. Voilà, oui, ça me plaît énormément, cette ambiguïté là, et par rapport au regard de la société sur ces femmes, c'est ce qui circule, encore une fois, de manière très différente, chez Sadie, chez Ariette et chez Evie, et comment elles vont faire avec, quoi. Encore une fois, elles ne règlent pas du tout cette question, mais elles tournent autour, elles sont aux prises avec. Et on y est aujourd'hui encore, aux prises avec ces questions-là. Et en plus, Enfin, voilà, en tant qu'actrice, les rôles comme ça qui font état de ces contradictions-là, il n'y en a pas énormément encore, il n'y en a pas suffisamment, je trouve, dans l'écriture au théâtre. Donc, pour moi, c'était important de faire connaître cette écriture-là.
Sur la question de la disproportion des rôles, moi j'ai une explication, je ne sais pas si elle est bonne, mais je pense que ça fait partie de l'immense coupure de 68, ça. Je crois que de même que il y a vraiment les gens, les mentalités avant 68 et après. Je crois que il y a une coupure là aussi pour en ce qui concerne les femmes dans les films et les metteurs en scène aujourd'hui, les auteurs, les cinéastes, les artistes en général savent confusément, savent au fond d'eux-mêmes qu'on ne peut plus parler des femmes dans les mêmes termes qu'avant, mais dans le doute, c'est-à-dire dans l'ignorance de savoir comment en parler, ils préfèrent s'abstenir. Ouais, c'est ce qui nous donne ces films sur des... Et aussi, il ne faut pas oublier cette espèce de terrorisme qui existe dans la presse aussi. Il y a un terrorisme un peu politique, c'est-à-dire que si un film n'est pas révolutionnaire, s'il n'est pas de gauche, s'il n'est pas jeune, s'il n'est pas... Mais il y a aussi maintenant, s'il n'est pas féministe, vous voyez, s'il n'est pas féministe, il est donc phallocratique. Donc dans ce doute, il y a une espèce d'abstention, un refuge dans une espèce de neutralité. Et là, actuellement, on a, pour ces raisons de protection, on a beaucoup de films sur des dilemmes, vrais ou faux, mais sur des dilemmes qui mettent en cause, évidemment, des histoires d'hommes, parce que, pour la bonne raison, que ça se réfère à l'histoire et que, jusqu'ici, l'histoire a été faite plutôt par les hommes. Donc, on arrive, effectivement, à de très belles distributions avec 25-30 hommes et des rôles de femmes très faibles.
Vrai que ça devant.
Et je crois que c'était une période de transition aussi, parce que je connais de plus en plus de comédiennes qui écrivent, c'est ça.
Mais justement, moi, d'ailleurs, je suis ravie parce que j'ai une de mes amies qui est en train d'écrire un spectacle, et figurez-vous que je me lance là-dedans, non pas à mise en scène, c'est un trop grand mot, mais enfin, disons qu'on travaille en équipe et puis que je m'occupe de régler un peu le spectacle. Et en réalité, c'est parti de ça, c'est parce qu'elle en avait assez de toujours voir les copines sans boulot, et puis elle a dit, bon, ben, si un jour j'écris, j'écrirai pour les femmes. C'est pas qu'elle aime pas les hommes, au contraire, elle aime beaucoup. Mais c'est un peu une réaction, je pense.
Je crois qu'on a là...
Et d'ailleurs, dans les textes, elle dit des choses qu'on a envie de dire, justement, abolir certains préjugés ou certaines images de marque sur les femmes, parce qu'on en a assez.
Malheureusement, je suis pas en mesure, j'appelle à nos auditrices et nos auditeurs et à leur reconnaissance et à leur mémoire, je suis pas en mesure de vous dire la femme qui s'exprime juste après François Truffaut dans cette archive Ina de 1975. Truffaut qui est lui aussi plein de contradictions dans cette archive-là, Marie Raymond, puisqu'il dit après 68, finalement, les choses changent, mais les choses changent tellement que les hommes ne savent plus quel rôle écrire pour les femmes. Et bon, cette femme qui est probablement une des comédiennes réunies sur le plateau dit, bon, bah, peut-être que l'une des façons, c'est de nous-mêmes écrire nos pièces et de nous-mêmes mettre en scène. Est-ce que vous avez connu un parcours similaire bien des années plus tard, Marie Raymond? Vous disiez tout à l'heure, le théâtre offre trop peu de rôles de cette singularité, de cette complexité-là. Soit je m'y colle. Est-ce que finalement vous avez fait ce constat-là pour vous-même en tant que comédienne, puis ensuite en tant que dramaturge ou metteur en scène?
Mais oui, parce que c'est frappant cet archive, parce qu'il dit on devrait, mais presque pour la bien-pensance actuelle, valoriser les femmes, donner des rôles plus complexe, mais on sait pas comment faire, donc finalement, voilà, on n'y arrive pas. Et c'est frappant parce qu'effectivement, moi, Truffaut, je veux dire, je m'identifie tout autant à Antoine Doinel. On n'est pas tous des Fanny Ardant. Enfin, ce que je veux dire, c'est que souvent, le rapport de la femme, que ce soit au théâtre ou au cinéma, tourne autour du désir. Et des questions, comme il dit, le monde porté par les hommes, c'est-à-dire les questions existentielles ou les questions où les 400 coups avec Antoine Doinel qui a envie de partir, etc. Pour moi, ça n'a évidemment pas de genre, pas de sexe, et il y a trop peu au théâtre de rôles qui portent cette complexité-là. Donc, c'est vrai que moi, j'ai ressenti une liberté énorme au plateau de pouvoir tout d'un coup, en incarnant André, de me libérer de cette question-là.
Vous précisez, donc vous parlez d'André Agassi, voilà, dans une précédente mise en scène.
Oui, en fait, effectivement, c'est vrai qu'après... oui, moi, mon rapport, le rapport à la mise en scène est pas venu d'une volonté au départ de faire de la mise en scène. J'ai commencé le théâtre comme comédienne et c'est toujours ça qui m'a guidée et donné envie. Et simplement, à des moments, c'est la rencontre avec un texte précis, une histoire et l'envie un peu irrépressible de la porter au plateau qui m'a fait accéder à la mise en scène. Mais et donc c'est en lisant cette histoire de Open, le roman de d'André Agassi, que j'ai eu envie que ça puisse rencontrer les spectateurs et puis de faire état de ces contradictions là, de ce parcours là sur scène. Et donc tout d'un coup, je me retrouvais, voilà, et comme pour échapper à tout mimétisme biopique, toute ressemblance possible, enfin, en décalant totalement la forme, donc en se disant, bah c'est une fille qui va jouer André Agassi, comme ça le problème est évacué, c'est-à-dire qu'on se, on n'est pas dans un, on se pose d'autres questions qui sont des questions qui travaillent. André Agassi dans son texte, et ben tout d'un coup ça donnait une liberté sur scène que je ressentais et que j'avais finalement peu eu l'occasion de ressentir jusque-là ou à d'autres endroits, mais je veux dire que tout d'un coup de se dire ben les questions de justement qui on est, comment accéder à ces libertés, comment on s'emprisonne, comment etc. qui sont des questions universelles, qui pour moi ne sont encore une fois pas des questions genrées, et ben très souvent étaient quand même mises dans la bouche de personnages masculins. J'avais eu cette sensation aussi quand j'avais découvert l'écriture de Lagarce, que j'aime beaucoup. J'étais allée voir Le Pays lointain et je trouvais, et en entendant le monologue d'Antoine, un des personnages que je trouvais magnifique, je me disais bah tiens, ça évidemment que tout le monde aurait envie d'avoir, et c'est vrai que pour les actrices il y a des rôles magnifiques, c'est pas du tout la question, mais c'est que souvent ça tourne quand même autour des mêmes problématiques.
Je suis convoitée, je suis désirée, est-ce que oui. Je veux me marier, est-ce que je veux pas me marier,
voilà. Alors il y a un fil là, par exemple, moi j'ai eu de la chance finalement dans mon parcours, parce que de côtoyer, d'incarner des rôles comme Yvonne dans Yvonne Princesse de Bourgogne, ou Catherine dans Soudain l'été dernier, ou encore une fois dans Delphine, là, dans l'adaptation du Romer, du Rayon Vert. Là, c'est des personnages qui sont en prise avec des... Catherine, elle a un lien direct avec Jane Bowles, avec Sylvia Plath, avec voilà, des héroïnes qui sont en lutte avec une société qui veut étouffer leurs paroles, avec, enfin, en tout cas, qui luttent elles-mêmes avec leur place, leur rapport au monde, et Yvonne d'une autre manière, plus muette évidemment, mais voilà. Et donc j'ai eu cette chance-là, mais je sais que dans mon parcours à l'école, par exemple, de comédienne, j'avais la sensation en lisant du théâtre que c'était souvent autour des mêmes problématiques. Et ça, c'était frustrant, ouais.
Pour poursuivre et peut-être conclure sur la question de la complexité avec vous, Marie-Raymond, il y a manifestement un suicide dans cette pièce-là, mais c'est quelque chose qu'on comprend parce que la scène se rejoue deux fois, qu'il y a peut-être des choses qui se passent à l'intérieur de la tête d'une des femmes, d'autres choses qui se passent peut-être dans ce qu'on peut appeler plus le réel. Et vous choisissez, peut-être avec Thomas Guillardet, de rester très ouvert là-dessus. Comme l'est le texte. Ouais. Pas plus que n'est le texte, mais en tout cas très ouvert sur, vous disiez tout à l'heure, ces femmes ne résolvent rien, bah si, peut-être l'une d'entre elles. Peut-être qu'en jetant dans l'eau, elle résout une des questions existentielles.
Ouais. Mais la volonté de ne pas donner de conclusion à son récit, c'est une obsession chez Jane Bowles, parce que juste avant sa mort, elle s'apprêtait à écrire un autre roman, qui se passait un peu de la même manière, c'est-à-dire elle disait, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de fin. Pareil, c'est des personnages aux prises avec leurs fantasmes, avec leurs rêves. Et là, dans Cataracte, on comprend qu'il y a une tragédie. On ne la nomme pas.
Ni avant, ni après. Ni l'héritage de la, entre guillemets, folie, ni le possible suicide. Tout n'est pas développé.
Complètement. Alors, c'est compliqué, ce degré... d'opacité, du coup, quand on décide de le mettre en scène, parce qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on est lucide ou pas, quelle clé on donne à ces énigmes. La fin a été trouvée assez tardivement, là, dans les quelques jours de reprise, quand on a repris le spectacle, on l'a modifié par rapport à la création, par exemple, parce que tout d'un coup, cette inquiétude qui plane chez Ariette, ce pressentiment de la catastrophe, on avait envie de l'exprimer un petit peu plus, donc de c'est pour ça qu'on parlait de suicide, donc on se doute plus fortement qu'il y a eu ce suicide dans les chutes. Mais comme dans son écriture, elle est restée, elle, dans la tête de Sadie à ce moment-là, et que Sadie n'a pas du tout conscience de ce qui est en train de se passer, qu'elle est dans son rêve en train de cacher cet Indien derrière la cascade, et ben c'est la seule chose qu'on a décidé de montrer. Mais il y a eu un long parcours, c'est-à-dire il y a un moment où on montrait Sadie faire un pas et que le noir se faisait alors qu'on l'imaginait se jeter dans la cascade. Là, on le montre pas. Voilà.
Cataracte Valais, ça se joue aux ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon à Paris, ce jusqu'au 15 juin 2019. Ce sera repris à Bordeaux, Reims et Lorient tout au long du mois de janvier 2020. Je vous conseille la lecture de Plaisir paisible dans laquelle on retrouve cette nouvelle. C'est paru aux éditions Bourgois. Et je vous conseille aussi l'écoute du très beau documentaire de création qui s'appelle Traverser les forêts. Judith Bordas et Annabelle Brouard sur franceculture.fr. Merci beaucoup Marie Rem.
Merci.
I'll let you see more of us. The knives and the cut phone lines and the eyes have it. Because, well, it is clear this day.
À la prise de son ce soir, c'était Alain Joubert, à la réalisation Charlotte Roux. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Valentin Rémy qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, c'est le journal sur France Culture, le journal de 22h. Quand vous voulez, franceculture.fr, les références, archives, musique, textes et un lien vers le podcast pour écouter cette émission et celles qui l'ont précédée, celles qui vont suivre, où vous voulez, quand vous voulez.
Sleep as you will get, and you scream that you will pay. Well, I scream that you will pay in slobbering against your sock soaked with spit. You do.